Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 7 janvier 2017. Il est 3h du matin du temps indirect maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi le revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, auditrices, voici le journal aujourd'hui. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar-Triakulu, a affirmé qu'actuellement, on est en train de préparer des experts de l'information et des technologies pour aider l'Agence nationale de cyber. Ria Mizar-Triakulu a déclaré jeudi que des experts en informatique étudient actuellement dans diverses institutions à l'intérieur et à l'étranger. Ils seront donnés également le matériel sur la défense du pays. À l'avenir, selon Ria Mizar-Triakulu, la quantité des ressources des experts de l'information et de la technologie sera améliorée. Plus tôt, le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le président Joko Widodo a fait ordonner la mise en place de l'Agence nationale de la cyber pour protéger les activités de cyber nationales. Le ministre de la Santé s'efforce à ajouter 3 types d'immunité afin de compléter le programme national de la base immunisation complète, à savoir le vaccin contre la rubéole, rougeole, pneumocoque et papillomavirus. Le directeur général de la prévention des maladies et du contrôle de la santé, Subbu, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré que le vaccin contre la rougeole remplacera le vaccin contre la rougeole et a commencé à attendre son utilisation sur une base régulière en janvier 2017. Le vaccin pneumocoque comme la protection des enfants contre les maladies respiratoires aiguës à introduire au mi-2017. En outre, le vaccin contre le papillomavirus humain qui a été introduit sur le programme du mois d'immunisation des écoliers de 2016 à Jakarta seront développés plus largement en 2017. Il a expliqué que jusqu'en 2025, le ministère de la Santé ajoutera 3 immunisations. Le nombre total de la vaccination de base complète est 14. Le décès du président Joko Widodo pour que le taux de rupiah se reverse à yuan chinois pourrait défectuer, mais beaucoup de choses qui doivent être luttées par le gouvernement de l'Indonésie. L'une d'elles est la coopération avec le pays de l'ASEAN en utilisant l'aire de la communauté économique de l'ASEAN ACEA. C'est ce qu'a déclaré le chef adjoint du bureau de représentation de la bande d'Indonésie de la province Riau, Irwan Mula Warman, à la Radio République Indonésia vendredi. Selon lui, bien que le système du commerce international qui a été établi utilise le dollar américain, Il ne sera pas difficile de subvertir cette monnaie et la remplacer par yuan. Par ailleurs, le principal pays partenaire commercial de l'Indonésie est la Chine, yuan, qui utilise la monnaie de yuan. Il a confirmé que le système commercial indonésien, qui n'est pas seulement lié à des accords bilatéraux, beaucoup de commerces qui utilisent le troisième parti, à la fois des exportations et des importations, le commerce en Indonésie sera mieux si elle se révère à la monnaie de yuan. Selon lui, il soutient le gouvernement indonésien s'il veut utiliser le yuan pour remplacer le dollar américain dans un certain nombre d'activités, y compris les transactions commerciales. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la décision du gouvernement de mettre fin à la collaboration avec JP Morgan Chase Bank, une banque des États-Unis, n'influencera pas l'économie indonésienne. Cette décision a été prise sur la base des résultats des évaluations profondeur avec toutes les parties prenantes. Sri Mulyani, tout en donnant une conférence publique devant des centaines d'étudiants et de la communauté universitaire de l'Université de Sia Kuala Banda Aceh, jeudi, a expliqué que le ministère des Finances sera constamment coopéré avec toutes les parties prenantes sur la base des principes de professionnalisme, la responsabilisation, la responsabilité, ainsi que la qualité globale de tous les résultats de travail. Sri Mulyani a également souligné que dans son développement, l'économie de l'Indonésie ne peut pas être séparée du développement de l'économie mondiale. Lors dernier, le président de la Commission 1 du Parlement de l'Indonésie, Abdul Haris Al-Mashari, a demandé au gouvernement d'évaluer des pays qui ont l'exemption de visa de la visite dans le pays. L'évaluation globale doit être faite pour fixer le pays qui devrait révoquer son visa gratuit afin de ne pas se tromper dans la détermination des politiques sur l'exemption de visa, si bien que la visite de touristes étrangers reste nombreuse. Il donne les critères des pays qui doivent être révoqués sans exemption de visa. Selon lui, les ressortissants étrangers qui ont plus abusé la licence sans visa sont entre autres les travailleurs expatriés illégaux, trafiquants de drogue et la cybercriminalité. En outre, le gouvernement ne s'inquiète pas de perdre une visite des touristes étrangers à cause de la révocation d'un permis sans visa, parce que la visite des touristes étrangers n'est pas seulement influencée par l'utilisation de visa ou l'exemption de visa. Ce solide auditrice, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Republica le mercredi 4 janvier sur contre les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles deviennent un phénomène de plus en plus impliqué récemment. Les fausses nouvelles provenant principalement de médias sociaux perçus de plus en plus inquiétants. De même, l'emballage créatif des fausses nouvelles que c'est difficile de distinguer où l'information est vraie et ce qui est fabriqué. Le phénomène de fausses nouvelles trouble certainement toutes les parties. Le quotidien Republica estime que l'impact de ces fausses nouvelles est énorme. Si ce phénomène a permis rampante, bien sûr, c'est préjudiciable à toutes les parties. Par conséquent, la pratique des fausses nouvelles doit être arrêtée. Toutes les parties ont accueilli et soutenu le président pour contrer les fausses nouvelles sur les médias sociaux en particulier. Mais le mouvement doit être fait soigneusement et équitablement que possible. Le journal Republica espère que toutes les parties, y compris le public, soutiennent la campagne contre les fausses nouvelles. Selon ce journal, ne laissez pas les gens continuer d'être bombardés par les nouvelles pleines de mensonges. Le journal Média Indonésia a écrit dans son éditorial le 4 janvier sur des mesures fermes pour maintenir la stabilité. Garder la République est le devoir absolu de chaque citoyen, du président aux gens ordinaires, des professeurs aux femmes au foyer. Dans le processus de la guérité, le professionnalisme, l'intégrité, la responsabilité et la fermeté doivent être la poignée principale. Selon le quotidien Média Indonésia, lorsque l'État est déjà pris en charge par un professionnel, l'intégrité et la responsabilité, il y a encore des mouvements qui tentent de déstabiliser la République qui exigent un niveau élevé de fermeté. Le ministre de la Finance Sri Mulyani Indrawati a donné l'exemple de fermeté en décidant de mettre fin à l'ensemble des relations de partenariat entre le ministère de la Finance avec JP Morgan Chase Bank. La résiliation du partenariat est commencée de la recherche JP Morgan intitulée Trump Forces Tactical Changes le 13 novembre 2016. La recherche est adressée aux investisseurs de JP Morgan. Sri Mulyani était en colère parce que dans la recherche, JP Morgan a mis l'Indonésie dans une position négative aux yeux des investisseurs, mais pas d'indicateurs clairs et des données mesurables. JP Morgan, dans un rapport de recherche, note la position du Brésil et la Turquie diminue. L'imprécision de la recherche peut conduire au plus grand problème. Sri Mulyani suppose même qu'aucune recherche non crédible pourrait interférer la psychologie des investisseurs et altérer la stabilité des finances nationales. Selon Média Indonésia, la terminaison des relations avec JP Morgan est un signal fort et un avertissement pour les autres qui cherchent à jouer avec la stabilité de la République. Le dernier, l'éditorial du journal Sindo, le 4 janvier, a écrit sur l'histoire classique de supervision. Pour certaines personnes, la nouvelle année 2017 n'est pas accueillie avec bonheur. En plus de l'augmentation du tarif de la publication du certificat de numéro de véhicule, livre des propriétaires de véhicules, BPKB, et le numéro du véhicule environ 100% à 200%, le feu du navire à moteur Zahro Express le dimanche 1er janvier fait le début de cette année amère. Le feu de navire à moteur Zahro Express, qui a tué des dizaines de passagers et certains qui n'ont pas toujours récupéré, montre comment le souci sur le transport en masse en Indonésie. Le journal Sindo a écrit « La surveillance faible comme étant un con classique qui n'a pas jamais la solution. Les officiers ont toujours considéré banal un contrôle. Plus de capacités ou les outils de sécurité qui ne répondent pas à la norme a toujours été la cause d'une catastrophe. En fait, ces deux choses sont très faciles à contrôler. Par conséquent, selon le journal Sindo, la surveillance doit être accompagnée de sanctions sévères. Les sanctions strictes pour révoquer la licence d'opération constitueraient un effet dissuasif pour les opérateurs qui ne jouent pas un facteur pour la sécurité des passagers. Cher ami, c'était la revue de presse.
Chers auditeurs, écoutons maintenant notre rubrique « L'histoire d'aujourd'hui » de la Voix de l'Indonésie, l'édition 7 janvier. Nous allons commencer le 7 janvier 1965. L'Indonésie a décidé de se retirer de l'ONU. L'Indonésie est officiellement devenue le 60e membre des Nations Unies le 28 septembre 1950, conformément à la résolution 86 du Conseil de sécurité des Nations Unies deux jours auparavant et la résolution ARES-491V de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la République d'Indonésie à l'Organisation des Nations Unies. Moins d'un an après la reconnaissance de la souveraineté de l'Indonésie par les Pays-Bas lors de la conférence de table ronde néerlandaise-indonésienne à La Haye, 23 août à 2 novembre 1949. Au cours de la confrontation entre l'Indonésie et la Malaisie en 1965, est en réponse à l'élection de la Malaisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Indonésie a décidé de se retirer de l'ONU. Toutefois, dans un télégramme daté du 19 septembre 1966, l'Indonésie a notifié à son secrétaire général sa décision de reprendre la pleine coopération avec l'Organisation des Nations Unies et de reprendre sa participation à ses activités à partir de la 21e session de l'Assemblée générale. Le 28 septembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note de la décision du gouvernement indonésien. Le président de l'Assemblée générale a invité les représentants de l'Indonésie à siéger à l'Assemblée. En chance, le prochain événement a été en 1979 lorsque le Pol Pot et les forces menées Khmer Rouge ont été évincés par les forces du Vietnam. À la fin de 1978, les dirigeants vietnamiens ont décidé de supprimer le régime dominé par le Khmer Rouge du Cambodge démocratique en le considérant comme étant pro-chinois et trop hostile envers le Vietnam. Le 25 décembre 1968, 150 000 soldats vietnamiens ont envahi le Cambodge démocratique et ont envahi l'armée révolutionnaire cambodgienne est seulement deux semaines. Le 7 janvier 1979, une république populaire du Cambodge pro-vietnamienne, ou PRK, a été établie à Phnom Penh, marquant le début d'une occupation vietnamienne de 10 ans. Pendant cette période, le Cambodge démocratique des Khmer Rouge a continué à être connu par les Nations Unies comme le gouvernement légitime du Cambodge, alors que plusieurs groupes de résistants armés ont été formés pour combattre l'occupation vietnamienne. Dans les coulisses, le premier ministre Hun Sen du régime PRK a approché les factions du gouvernement de coalition du Cambodge démocratique ou GDK pour commencer les pourparlers du pays. Sous la forte pression diplomatique et économique de la communauté nationale, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre une série de réformes économiques et de politiques étrangères qui ont conduit à la retraite du Cambodge en septembre 1989. Et le dernier événement a été en 1984 quand Brunei Darussalam a rejoint l'ASEAN. L'Association des Nations Unies de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, est une organisation politique et économique de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Elle a été constituée le 8 août 1967 par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Depuis, l'adhésion s'est étendue au Brunei, au Cambodge, au Laos, au Myanmar, au Birmanie et au Vietnam. Ses objectifs sont l'accélération de la croissance économique, du progrès social et de l'évolution socio-culturelle de ses membres, la protection de la paix et de la stabilité régionale et la possibilité pour les pays membres de résoudre les différentes de manière pacifique. Le 7 janvier 1984, Brunei Darussalam a rejoint le 6e membre de l'ASEAN. Actuellement, les membres de l'ASEAN sont passés à 10 pays, à à savoir l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines et le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Ces auditeurs, c'était notre histoire d'aujourd'hui, de l'édition de 7 janvier. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et un petit titre. Après l'autosuffisance du riz, le gouvernement construisait l'agriculture à la frontière. Le président Joko Widodo exprime l'appréciation au ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman, pour son succès de ne pas importer du riz depuis septembre l'année dernière, lors de l'ouverture de la réunion de travail national du développement agricole l'an 2017 à Jakarta le jeudi. Le président a cité des données de production du riz l'année dernière a atteint 79,14 millions de tonnes, en hausse de 11% par rapport à 2015. Avec ce nombre de production, l'Indonésie est considérée comme l'autosuffisance en riz et n'a pas besoin d'importer à nouveau, y compris en 2017. Dans son discours, le président Joko Widodo a suggéré comme l'une des clés pour accroître la production agricole, l'eau devient le centre de développement dans le secteur agricole en 2017. Le président vise à construire plus de 30 000 réservoirs ou bassins de stockage d'eau en 2017. Jusqu'en 2016, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a construit 3 771 réservoirs dans certaines régions en Indonésie. Le président a également demandé au ministre de l'Agriculture, ministre du Développement rural et des régions défavorisées et le ministre des Travaux publics et du Logement à se concentrer sur l'amélioration et la réparation de l'irrigation endommagée, l'irrigation primaire, secondaire et tertiaire. Selon le président, le stockage de l'eau est nécessaire, en particulier dans la saison sèche. Si le stock de l'eau n'est pas bien traité pendant la saison sèche, les gens ne peuvent pas effectuer des activités de production. Suite à ce succès, le gouvernement indonésien est en train de construire le secteur agricole à la frontière avec le but non seulement de répondre aux besoins dans les zones rurales, mais aussi pour but d'augmenter les exportations vers les pays voisins. Comme l'a déclaré le président après l'ouverture de la réunion de travail national, le développement agricole en 2017. Selon le président, il devrait y avoir en aval des produits dérivés pour faire suivant. Le produit devrait être exporté. Si la production agricole en Indonésie peut être améliorée et il doit répondre à la demande antérieure, l'excédent de la marchandise peut être vendu à l'étranger. Le président Joko Widodo demande ces entreprises villageoises ou les entreprises appartenant à l'État pour organiser les agriculteurs afin de produire de manière efficace tout en travaillant sur le marketing avec des moyens modernes pour être compétitif au niveau international. Cependant, le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman, a dit que le gouvernement tente de construire des granges frontières dans 5 régions de Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi et de Papouasie. Le ministre a expliqué « On avait réveillé les champs dans les zones frontalières avec la superficie totale de 4000 hectares pour construire une grange à la périphérie, doublant en même temps le plan des exportations vers les pays voisins comme Singapour, la Malaisie, les Philippines, le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. » Chers amis, c'était la mise au point.
Chers auditeurs, auditrices, voici le journal aujourd'hui. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar-Triakulu, a affirmé qu'actuellement, on est en train de préparer des experts de l'information et des technologies pour aider l'Agence nationale de cyber. Ria Mizar-Triakulu a déclaré jeudi que des experts en informatique étudient actuellement dans diverses institutions à l'intérieur et à l'étranger. Ils seront donnés également le matériel sur la défense du pays. À l'avenir, selon Ria Mizar-Triakulu, la quantité des ressources des experts de l'information et de la technologie sera améliorée. Plus tôt, le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le président Joko Widodo avait ordonné la mise en place de l'Agence nationale de la cyber pour protéger les activités de cyber nationales. Le ministre de la Santé s'efforce à ajouter 3 types d'immunité afin de compléter le programme national de la base immunisation complète, à savoir le vaccin contre la rubéole, rougeole, pneumocoque et papillomavirus. Le directeur général de la prévention des maladies et du contrôle de la santé, Subbu, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré que le vaccin contre la rougeole remplacera le vaccin contre la rougeole et a commencé à attendre son utilisation sur une base régulière en janvier 2017. Le vaccin pneumocoque comme la protection des enfants contre les maladies respiratoires, aigues, à introduire au mi-2017. En outre, le vaccin contre le papillomavirus humain, qui a été introduit sur le programme du mois d'immunisation des écoliers de 2016 à Jakarta, seront développés plus largement en 2017. Il a expliqué que jusqu'en 2025, le ministère de la Santé ajoutera 3 immunisations. Le nombre total de la vaccination de base complète est 14. Le défi du président Joko Widodo pour que le taux de rupia se révère à yuan chinois pourrait défectuer, mais beaucoup de choses qui doivent être luttées par le gouvernement de l'Indonésie. L'une d'elles est la coopération avec le pays de l'ASEAN en utilisant l'aire de la communauté économique de l'ASEAN à CEA. C'est ce qu'a déclaré le chef adjoint du bureau de représentation de la bande d'Indonésie de la province Riau, Irwan Mula Warman, à la Radio République Indonésia vendredi. Selon lui, bien que le système de commerce international qui a été établi utilise le dollar américain, il ne sera pas difficile de subvertir cette monnaie et le remplacer par yuan. Par ailleurs, le principal pays partenaire commercial de l'Indonésie est la Chine, yuan, qui utilise la monnaie de yuan. Il a confirmé que le système commercial indonésien, qui n'est pas seulement lié à des accords bilatéraux, beaucoup de commerces qui utilisent le troisième parti, à la fois des exportations et des importations, le commerce en Indonésie sera mieux si elle se révère à la monnaie de yuan. Selon lui, il soutient le gouvernement indonésien s'il veut utiliser le yuan pour remplacer le dollar américain dans un certain nombre d'activités, y compris les transactions commerciales. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la décision du gouvernement de mettre fin à la collaboration avec JP Morgan Chase Bank, une banque des États-Unis, n'influencera pas l'économie indonésienne. Cette décision a été prise sur la base des résultats des évaluations profondeur avec toutes les parties prenantes. Sri Mulyani était en donnant une conférence publique devant des centaines d'étudiants et de la communauté universitaire de l'Université de Syah Kuala Banda Aceh, jeudi, a expliqué que le ministère des Finances sera constamment coopérer avec toutes les parties prenantes sur la base des principes de professionnalisme, la responsabilisation, la responsabilité, ainsi que la qualité globale de tous les résultats de travail. Sri Mulyani a également souligné que dans son développement, l'économie de l'Indonésie ne peut pas être séparée du développement de l'économie mondiale. Leur dernier, le président de la Commission 1 du Parlement de l'Indonésie, Abdul Haris Al-Mashari a demandé au gouvernement d'évaluer des pays qui ont l'exemption de visa de la visite dans le pays. L'évaluation globale doit être faite pour fixer le pays qui devrait révoquer son visa gratuit afin de ne pas se tromper dans la détermination des politiques sur l'exemption de visa, si bien que la visite de touristes étrangers reste nombreuse. Il donne les critères des pays qui doivent être évoqués sans exemption de visa. Selon lui, les ressortissants étrangers qui ont pu aboutir la licence sans visa sont entre autres les travailleurs expatriés illégaux, trafiquants de drogue et la cybercriminalité. En outre, le gouvernement ne s'inquiète pas de perdre une visite des touristes étrangers à cause de la révocation d'un permis sans visa, parce que la visite des touristes étrangers n'est pas seulement influencée par l'utilisation de visa ou l'exemption de visa.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Ce sont toujours des nouvelles phrases qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. La concurrence du service de transport en ligne, en particulier les véhicules à quatre roues, est de plus en plus féroce. Il est également ressenti par les habitants de la ville. Non seulement en fournissant le meilleur service, des promotions intéressantes et une flotte confortable, mais aventuré aussi dans l'utilisation de la technologie numérique. Narsi, de nouvelles applications de transport effectuées par les enfants du pays, est récemment apparue dans la ville universitaire de Yogyakarta. Ce soir, cette rubrique a pour titre Narsi, l'application de transport dans la ville Yogyakarta. Ne voulant pas être laissé derrière avec une application de service de réservation de taxi qui existe déjà en Indonésie, l'Université Gadjah Mada, par l'intermédiaire de Gama Techno, société anonyme, développe l'application en ligne pour les taxis à Yogyakarta. Cette application, basée sur smartphone Android, est nommée Narsi. Narsi en javanais peut dire voyager en taxi. Dans le service Narsi, l'Université Gadjah Mada a trois gestionnaires de taxi, à savoir Raja Wali Taxi, Arga Surya Alam Perkasa Société Anonyme et Taxi KSU Pataga. Le directeur de Gama Techno de l'Université Gadjah Mada, Muhammad Arif Aditya Nugraha, a déclaré que l'application Narsi est créée spécifiquement pour les opérateurs officiels de la flotte de taxi, pas le taxi d'une voiture privée. Aditya a ajouté, Narsi est fait pour soutenir l'opérateur qui était déjà là avant la prolifération des taxis non officiels sur la base des applications en ligne. L'application Narsi est officiellement présentée à Yogyakarta depuis le 15 septembre 2016. Par l'intermédiaire de Narsi, l'utilisateur peut faire des réservations rapidement, en toute sécurité et facilement. Chaque ordre de commande entrante sera directement distribué par les opérateurs aux chauffeurs de taxi qui sont dans une position la plus proche du client. Narsi donne la priorité au service rapide dans la commande et la prise des passagers. Toute la flotte de taxi officiellement incorporée dans Narsi a un niveau de confort, de sécurité et a plus de 8 ans d'expérience au service des clients de taxi. En outre, les chauffeurs et les opérateurs de Narsi ont été spécialement formés de l'équipe Gama Techno. Aditya souhaite que l'application Narci puisse faciliter les consommateurs à commander un taxi dans la région de Yogyakarta et ses environs et d'améliorer la qualité de service pour les utilisateurs de taxi. En outre, Narci sera développé en collaboration avec les gestionnaires d'hôtels et de centres commerciaux modernes à Yogyakarta via le paiement de la monnaie électronique. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à l'île Tikus à Bengkulu. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. L'île Tikus est située dans l'ouest de la ville Bengkulu, à une distance d'environ 10 km du centre-ville. L'île Tikus est une petite île de corail entourée de beaucoup de coraux et riche en ressources biologiques. Il est également l'un des destinations touristiques. À l'île Tikus se trouvent de nombreux coraux et les écosystèmes marins éblouissants. La mer a des sables blancs et à la nuit, l'endroit est un habitat pour la tortue imbriquée et la tortue verte à grimper à terre pour pondre leurs œufs. L'île Tikus a une atmosphère naturelle, propre et apaisante. Si vous visitez l'île Tikus, vous vous sentirez comme si cet endroit est un lieu privé. Il y a aussi un phare parce que cette île est autrefois utilisée comme anafre de navire. La belle plage de sable blanc, les roches et l'eau de mer bleue est calme et loin de la foule vous permettra d'oublier un instant les problèmes. L'île Tikus est en effet un endroit idéal pour des vacances, se détendre et admirer les richesses naturelles de l'Indonésie. La beauté sous-marine de l'île Tikus est également très tentante. Vous pouvez plonger tout accompagné par les poissons sous l'eau assez petite. Voir la beauté du corail fournira une expérience qui ne sera pas oubliée. Vous pouvez aussi pêcher en marge de corail. Faire le camping à l'île Tikus est aussi intéressant. Des milliers d'étoiles dans le ciel seront une belle vue la nuit. De plus, les ondes sonores, l'atmosphère naturelle de la plage sera un ami de votre sommeil. L'île Tikus, qui est à seulement 10 km de Bengkulu, peut être atteint par le navire en moteur dans environ 40 minutes à 1 heure. Aujourd'hui, de nombreuses agences de voyage donnent un certain nombre d'installations telles que la documentation promo sous-marine, équipement de plongée et plus encore. Un prix fixe et 150 000 rupiah par personne, y compris le transport, le guide, la nourriture et des boissons, des photographies sous-marines et de l'équipement de plongée en apnée. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain! Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant du VC ce monde avec le magazine musical indonésienne qui va vous plaire.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces amis des quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous souhaitons que vous soyez en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical La Voix de l'Indonésie, l'émission en langue française. Avec moi, Yubi Suryanto, qui va vous présenter pendant environ 15 minutes. Dans cette édition, nous allons vous présenter un chanteur indonésien en talent, Petra Sihombing. Voici sa première chanson intitulée Cinta Takkan Kemana-mana.
Padamu sedikit bayang diriku, akankah suatu saat kau berubah pikiran dan kembali? Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Suatu saat kau kembali kepadaku. Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika memang kita ditakdirkan untuk bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana. Cinta takkan kemana-mana. Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali?
Chers auditeurs et auditeurs, ma petite ombre, est-ce qu'un jour tu changes d'avis? C'est un peu de parole de la chanson Cinta Takkan Kemana-mana, qui est le premier album de Petra. Cette chanson a commencé à être préférée par les amateurs de musique indonésie. Mais vous savez, le succès de Petra n'est pas obtenu facilement. En fait, il avait plusieurs fois résisté par différents labels jusqu'à ce que finalement il a choisi une voie indépendante. Petra a été forcée de vendre sa voiture bien-aimée pour financer le premier album, de même intitulé Cinta Takkan Kemana-mana. A placé le nom de Petra dans la chanteur masculin top préféré en Indonésie. Ses auditeurs, voici son deuxième single intitulé Mine.
Thank you. Curl your heart, curl your face. It's so different from the others. I'll say you're the only one that I'll adore. Cause every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my geeky face blush so silly, yeah. Oh yeah. And I want to make you mine. Oh baby, I'll take it to the skies. Forever you and I, you and I. And we'll be together till we die. And our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh, no. Girl, your smile and your charm lingers always on my mind. I'll say you're the only one that I've waited for. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take it to the skies. Forever you and I, you and I know. And we'll be together. And our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. And I want you to be mine. And I want you to be. Take it to the skies. Forever you and I, you and I. And we'll be together till we die. And our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh, no. Together till we die, and our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Ooh. You'll be
Ces auditrices et auditeurs en pétition Bing est né à Jakarta le 10 avril 1992. Petra est d'origine d'une famille qui aime la musique. Petra n'est pas seulement un bon chanteur, mais il est aussi bon à jouer de la guitare et du piano. Sans oublier de son beau visage et de grand nombre de son père, le talent musical Petra était vu depuis qu'il avait 3 ans. Cependant, quand il était adolescent, il a commencé à honte à chanter comme un garçon. Il a arrêté à chanter. Petra a commencé à jouer de la batterie à l'âge de 7 ans et de la guitare à l'âge de 12 ans. Un an plus tard, il a commencé à composer des chansons sous le soutien de sa famille. Petra a décidé de produire un album lui-même. Chers auditeurs, avant de terminer notre programme ce soir, on écoute deux chansons de Petra intitulées Quatre personnes et Frederick Victim. Bonne écoute et au revoir.
Seminggu dekatimu, sial aku jatuh padamu. lagu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Semakin buatku ragu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Mistakes, I am relentless. Yes, I know. Baby.
Si jamais il y en a des différentes tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.